ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Monsieur Roger Attali de la communauté juive. Merci, Monsieur, d'être avec nous aujourd'hui pour aborder vos convictions, votre pratique et votre foi.
Merci de m'avoir invité.
Alors, d'entrée de jeu, j'aime bien dire, vous venez d'où? Quelle était votre famille?
Alors, je viens d'une famille traditionnaliste, née en Algérie, dans l'est de l'Algérie, à Constantine, une ville très pittoresque, avec des gorges, des ravins, des ponts, une très jolie ville. Et donc, nous avons été contraints par les soubresauts de l'histoire de quitter Constantine pour venir vivre en France. Mon père était fonctionnaire de préfecture, donc il a été muté sur Toulouse, et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus nous installer à Toulouse.
Et vous aviez déjà fait votre bar mitzvah ?
J'avais fait, c'était juste l'année de ma bar mitzvah, absolument. Et donc,
alors, vous expliquez pour nos auditeurs,
oui,
peut-être
bien sûr.
Que c'est
alors,
le
la
passage.
Bar mitzvah, c'est la majorité religieuse, jusqu'à l'âge de 13 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles, puisque les filles sont mûres un petit peu plus tôt que les garçons. Ce sont les parents, et le père en particulier, qui prend en charge en fait le comportement de ses enfants, et donc qui prend la responsabilité des actes des enfants. À partir de la bar mitzvah, l'enfant devient adulte, entre guillemets, et prend la responsabilité de ses actes. C'est la raison pour laquelle il endosse le jour de sa bar mitzvah le châle de prière, qu'on appelle le talit, qui est un rectangle de coton ou de laine, et où il y a aux quatre coins un certain nombre de fils qui sont noués, et ces fils, ils sont au nombre de 613, pas 614 ni 615, tout simplement parce qu'ils représentent les 613 commandements. On a l'habitude de parler du décalogue, des 10 paroles, des 10 premiers commandements. En réalité, il y en a 613. Il y en a 248 à caractère positif, du genre « honore ton père et ta mère », et il y en a 365 à caractère négatif, « Tu ne tueras point ».
Et vous les connaissiez en hébreu, vous priez en hébreu.
Voilà. Et c'est du fait de ce qui se passait à l'époque en Algérie, donc ce qu'on a appelé très pudiquement les événements, mais qui était effectivement la guerre, je n'ai pas pu suivre, comme mes amis plus âgés que moi, qui avaient pu suivre leur éducation religieuse, dans ce qu'on appelle un Talmud Torah, donc l'équivalent d'un catéchisme, dont j'ai étudié avec un rabbin en cours particulier. C'était un rabbin qui était quasiment aveugle et qui me faisait beaucoup rire parce qu'il s'étonnait toujours que je pose beaucoup de questions. Il était très, très, presque parfois un peu ennuyé que je pose beaucoup trop de questions.
La pratique en Algérie, vous l'avez aussi continuer lorsque vous êtes venu à Toulouse.
Voilà. Alors à Toulouse, il n'existait que la synagogue Palapra, puisque c'était la synagogue historique et officielle de la communauté juive. C'est une synagogue qui a été construite en 1856, donc avant la loi de séparation des églises et de l'État. Donc c'est un bâtiment qui appartient à la mairie de Toulouse. Et c'était la synagogue officielle de la communauté juive. Et donc, avec l'arrivée des juifs d'Algérie en nombre, il a fallu donc acquérir un bâtiment qui se trouvait aux 14 rues du Rempart Saint-Étienne, qui est devenu depuis un hôtel des ventes. Et donc, c'est là que nous allions prier. Donc, il y avait trois niveaux de prière, pour essayer d'accueillir le maximum de monde possible, avec les dangers que ça pouvait représenter en termes de sécurité d'ailleurs.
Vous avez été attiré par des études de latin et de grec en plus de l'hébreu.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait de l'allemand, du latin et du grec à côté de l'hébreu. Et donc, je suis devenu professeur de français, latin et grec ici à Toulouse, au lycée Pierre de Fermat. Et je vous racontais en aparté tout à l'heure, mais c'était vrai, à côté du lycée Pierre de Fermat, il y a toujours, Dieu merci, la très belle l'église
des Jacobins,
mais qui était à l'époque, donc je suis arrivé, j'étais en classe de 3e, c'était une espèce de terrain vague. Puisque au moment de la Révolution et de l'Empire, l'église avait été transformée en écurie. Et donc, on doit à un passionné, un fervent de l'architecture qui s'appelait Monsieur Prin, la possibilité aujourd'hui de venir visiter ou prier dans une véritable église, magnifiquement réhabilitée, avec le cloître qui est à côté et qui accueille également des concerts de musique assez remarquables. En ce moment, d'ailleurs, il y a le piano aux Jacobins. C'est un festival de musique de piano.
Et donc pour vous, la laïcité, ce n'est pas seulement le consistoire avec la Révolution qui donne aux Juifs leur citoyenneté
tout à fait.
Et qui les émancipe.
En réalité, pour moi et pour beaucoup, je pense, de Juifs qui me ressemblent, je dois dire en aparté là encore qu'il y a autant de judaïsme que de Juifs. Hein. Mais globalement, pour moi, la laïcité, c'est un cadre qui permet l'expression de toutes les sensibilités et les spiritualités, les religions. C'est un cadre qui favorise le bien-vivre ensemble de personnes qui ont des convictions tout à fait différentes les unes des autres. Et c'est aussi la possibilité d'accéder à autre chose que le cocon familial. Moi, ça a été la musique, la littérature. J'ai une licence d'histoire de l'art parce que j'étais très intéressé par tout ce qui était l'histoire de l'art de façon générale, même si vous savez que dans le judaïsme on dit qu'il ne doit pas y avoir de représentation d'images sculptées dans une synagogue, parce que justement c'était la lutte contre l'idolâtrie, le paganisme, etc. Donc c'est plus lié à ça, parce que il y a des exceptions. Alors je ne sais pas ce que c'est devenu malheureusement avec la guerre qui sévit en Syrie, mais à Damas, il y avait une synagogue qui s'appelle Doura Europos, où les murs étaient entièrement peints de fresques. Donc ça prouve bien que c'était pas un commandement qui était forcément si respecté que ça.
C'est la question, parfois on dit que l'important ce n'est pas forcément ce que l'on croit, mais la pratique, les rituels.
Tout à fait. Alors, on le dit, les rabbins insistent beaucoup là-dessus. La Torah nous dit « fais et tu comprendras après ». Alors, je dois dire que je suis un peu rétif à ça. Ça m'a toujours un petit peu agacé, parce que j'ai besoin de comprendre. Je suis ainsi fait. Hein. Je crois que c'est plus une question de tempérament. J'ai besoin de comprendre. Donc, du coup, j'ai beaucoup étudié, à la fois en hébreu, mais beaucoup plus en français. Et j'ai essayé de mieux comprendre qui j'étais, d'où je venais, quelle était mon identité, quelle était mon histoire. Et du coup, on peut dire aujourd'hui qu'on peut se sentir juif sans pas du tout pratiquer quoi que ce soit en termes de religion, comme on a l'habitude de dire. La religion, c'est ce qui relie. Donc il y a tous ces aspects culturels et de pratiques culturelles qui ne sont pas forcément obligatoires pour se sentir juif.
Mais en même temps, les religions, c'est ce qui oppose. Et vous savez que le contentieux entre les catholiques, les chrétiens et les juifs est très, très, très lourd. Alors, vous me disiez, Vatican II est une ouverture,
ah,
peut-être.
Oui. C'est un véritable séisme positif. C'est pas du tout dans le sens négatif, puisque, alors, une petite anecdote en passant, lorsque mon père est décédé, j'ai retrouvé dans ses papiers, dans son portefeuille, une photo du pape Jean XXIII,
le bon pape Jean.
C'était pour lui très important que le judaïsme... Vous savez, c'est le grand historien Jules Isaac qui parlait de l'enseignement du mépris. Et effectivement, il y a eu à Toulouse, hein, en particulier, pour parler de Toulouse, il y avait une cérémonie jusqu'au XIIIe siècle qu'on appelait la colafisation, qui consistait dans le fait que le Vendredi Saint, dans la Semaine Sainte, le Vendredi Saint, devant la cathédrale Saint-Étienne, l'archevêque, muni d'un gant de fer, devait donner un soufflet à un représentant de la communauté juive et lui infliger de graves blessures et même la mort. Alors cette habitude, cette cérémonie a été transformée au fur et à mesure des années, et au milieu du XIIIe siècle, c'est devenu simplement un impôt, le droit d'octroi qui était payé aux chanoines de Saint-Sernin.
Oui, mais la théologie continuait de maintenir cette idée d'une substitution d'une alliance première en une alliance nouvelle.
On disait Vétus Israël et Verus Israël. Le vieil Israël, c'est représenté par la Torah, le Talmud. Le Talmud étant un commentaire énorme, énormissime, une somme théologique absolument inégalée. Donc le Talmud. Et le Verus Israël, c'est donc l'Évangile. Donc c'était l'époque où, par exemple, sur le tympan nord de la cathédrale de Strasbourg, on avait sculpté une jeune femme avec le visage ceint d'un bandeau, les yeux ceints de bandeau, aveugle à la vérité du Christ, avec une lance brisée, donc pour indiquer que plus aucun pouvoir, puisqu'il n'y avait plus d'identité nationale, et un livre de Torah, un livre de la Bible par terre, pour dire la caducité de l'alliance, en fait.
L'amitié judéo-chrétienne, depuis Vatican II, réussit à ces relations.
Absolument. Et nous nous en réjouissons tous les jours. Même si les personnes qui participent aux réunions sont un peu vieillissantes, on aurait besoin de renouveler un peu les auditoires, mais l'existence de l'amitié judéo-chrétienne est pour nous quelque chose de fondamentalement positif, puisque avec Vatican II et l'encyclique Nostra Aetate, il y a eu en particulier, alors il n'y a pas eu que ça, mais en particulier il y a eu disparition des missels de la notion de peuple juif, peuple déicide, qui avait causé tant de mal avec tout ce qui était les accusations de crimes rituels, d'empoisonnement des puits, etc. Donc c'était le temps du mépris au profit justement du temps de la reconnaissance et de la reconnaissance de la judéité de Jésus. Ce qui n'était pas peu.
Nous chantons, nous prions les psaumes ensemble, et sans doute, enfin, vous nous avez choisi une prière qui montre que la musique aussi est un moment de partage.
Absolument, c'est un moment de partage favori.
Amen.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et Roger Attali. Et vous avez choisi...
Alors c'est un texte qui est dit extrêmement fréquemment au cours de la journée, dans tous les offices. C'est la prière à la mémoire des morts. On n'y entend pas d'ailleurs le mot mort à l'intérieur du texte. Et c'est un texte particulier dans la mesure où il n'est pas écrit en hébreu mais en araméen. Donc c'est assez particulier. Et le musicien qui a composé ce Kaddish est un musicien du début du XVIIe siècle qui est un peu le contemporain de Monteverdi, juif italien, alors qui a composé beaucoup de musique sacrée, mais aussi beaucoup de musique profane, puisqu'il était musicien officiel de la cour de Mantoue. Et une petite anecdote en passant, sa sœur, alors que c'était quelque chose d'extrêmement rare de voir des femmes sur une scène, sa sœur était appelée Madame Europa, et c'était une cantatrice. Alors c'est la contradiction ou le paradoxe, puisque à la fois ces personnes étaient obligées de vivre dans le ghetto, dans la journée, et en même temps, il était compositeur de la cour de Mantoue.
C'est comme Moses Mendelssohn qui a traduit la Bible en allemand.
Absolument.
Un peu le Luther. Mais alors, on dit parfois que Dieu de vengeance, c'est le Dieu des Juifs, Dieu de force, de justice, contre le Dieu de l'amour des catholiques. Mmh. Bon, ce sont aussi un certain nombre de poncifs qu'il faut démonter.
Ça fait partie des poncifs,
démonter.
Tout à fait. Moi, par exemple, je crois avoir réussi à surmonter cette difficulté-là, puisque j'ai eu une expérience majeure dans ma jeunesse, dans mon enfance, puisque à l'âge de 9 ans, mes parents m'avaient envoyé en tant que scout en France, et pour partir de Constantinople jusqu'à Bonn, où on devait prendre le bateau pour venir jusqu'à Marseille, nous avons pris un train qui a sauté sur une mine. Donc il y a eu des morts, donc des copains, des moniteurs, etc. Et cette expérience tragique, extrêmement traumatisante, a fait que j'ai toujours eu horreur de la violence et que j'ai toujours essayé de privilégier dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle l'écoute et le besoin de dialoguer avec l'autre.
Le souci des autres, puisque je crois que vous êtes responsable, directeur du Fonds social juif.
J'ai été, alors après être passé par l'enseignement, j'ai été directeur du Fonds social juif unifié qui s'occupe en particulier de la Tzedaka, puisque là aussi c'est un poncif, on parle de juifs riches, il y en a comme partout, mais il y a aussi beaucoup de juifs qui se trouvent dans des situations de détresse et qu'il faut aider.
Oui. Et vous travaillez beaucoup également au niveau de la municipalité pour toute une série de manifestations.
Je suis beaucoup engagé dans le dialogue inter... Alors, on a l'habitude de dire interconvictionnel aujourd'hui. J'interviens dans le cadre d'un diplôme qui est un diplôme universitaire qui s'appelle « Droit et religion ». Avec l'université Toulouse Capitole, qui est un diplôme qui est devenu nécessaire pour exercer le métier d'aumônier et qui s'adresse à des gens qui sont en formation continue. Donc il y a des responsables de CAF, il y a eu des avocats, des responsables hospitaliers, de prison, etc. Et ça leur permet de mieux connaître ce que sont les différentes religions. Donc j'ai un collègue catholique, Jean-Jacques Rouchy, qui coordonne les activités de l'Institut catholique qui intervient au titre de partenaire avec l'Université Toulouse-Capitole. Il y a Abdelatif Melouki pour tout ce qui est l'islam et moi-même donc qui présente les aspects du judaïsme.
Parler de la religion de manière laïque, c'est-à-dire on ne supprime pas les représentations ou les mentalités, mais on...
Tout à fait. Et je reste persuadé que le fait d'expliquer, de mieux connaître, ça évite... l'ignorance est mère de la haine. Je crois que c'est parce que les gens ne savent pas qu'ils se méfient. Et donc du coup, le fait de faire connaître... Alors on peut ne pas être d'accord, hein, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, mais c'est davantage de faire connaître pour que les gens se parlent en frères.
Vous parlez de la Bible ?
Oui. Oui, bien sûr.
Comme production de l'homme.
Alors j'insiste beaucoup sur les aspects mythe et histoire. Parce que c'est vrai qu'on peut être choqué par un certain nombre de choses. Et là, j'explique que la Bible est une production... absolument stupéfiante de richesse et d'intérêt, mais qui peut être lue à divers niveaux, en fait.
C'est l'exégèse,
c'est l'exégèse.
La manière où chacun interprète.
Absolument. Vous savez qu'il y a quatre niveaux d'interprétation dans l'exégèse juive, le pshat, le remez, le drash et le sod. C'est des niveaux, on va dire, intellectuellement différents. On va de l'apparence du texte au sens le plus caché, et quand on fait un acronyme des initiales de chacun des niveaux d'interprétation d'exégèse, on obtient le mot « paradis ».
Pardès. Il faudra que vous reveniez nous parler du Zohar et de la Kabbale.
Oui, par exemple.
Mais je peux faire dire à Dieu n'importe quoi ?
Pas n'importe quoi, certes pas. Mais c'est vrai qu'on peut être choqué par... Vous savez, dans le Talmud, par exemple, il y a un tel souci du commentaire et de la critique du commentaire, c'est comme ça que ça fonctionne, qu'il peut y avoir des interprétations parfois complètement contradictoires. Donc, on peut faire dire à Dieu peut-être parfois un peu n'importe quoi.
D'où l'importance alors de confronter nos points de vue. Osons la rencontre.
Osons la rencontre.
Aussi une marche où...
Il y a une marche interconvictionnelle qui a lieu le dimanche 13 octobre. C'est le jour de Soukhot. C'est la fête
des cabanes
chez les Juifs. Et elle clôt le mois des jours redoutables. Rosh Hashanah et Kippour. Et la Soukhot, c'est la fête qui signifie que nous sommes dans une sorte de précarité, puisque nous devons vivre normalement pendant 8 jours dans une cabane que nous avons eu le privilège de construire et qui représente la précarité du passage pendant 40 ans dans le désert du peuple juif après être sorti d'Égypte.
C'est pas seulement un peuple paria, c'est la question de l'exil ou c'est la question d'Abraham qui quitte son pays
Tout
et qui
fait.
Nous montre nous sommes
il
des nomades.
Il y a une dimension sans aucune connotation politique de en marche. Les Juifs sont toujours en marche et je crois que ça fait partie de l'ADN du judaïsme d'avoir cet aspect de exilique, le désert. C'est important. Jésus aussi est passé par le désert pour pouvoir essayer de trouver son identité et la teneur de son message. Le désert est nécessaire pour pouvoir faire le point, en fait, sur soi-même.
Alors, habituellement, nous concluons notre dialogue par l'évocation de héros, de saints ou de personnes qui vous ont particulièrement marqué. Vous auriez
une proposition, c'est Simone Veil que j'ai eu l'occasion et le grand honneur de contacter. J'ai eu la possibilité de parler avec elle, et c'est quelqu'un qui avait un charisme, une élégance absolument extraordinaire, et qui elle aussi n'était pas dans la haine, alors qu'elle aurait pu. Ce qui la faisait bondir, c'est les amalgames, c'est les approximations. Et elle était très attentive au fait de transmettre la mémoire. Je suis effectivement responsable de la mémoire au sein du Conseil représentatif des institutions juives de France sur la ville de Toulouse et la région de Toulouse.
C'est aussi ce que va nous rappeler cette marche qui commence d'ailleurs dimanche.
À l'espace du judaïsme.
Oui, osons la rencontre pour mieux se connaître.
Absolument.
Et quelles que soient nos convictions et nos pratiques.
Tout à fait. Alors, il faut bien insister sur le fait qu'il n'y a aucun prosélytisme d'aucune religion, c'est simplement le fait de marcher côte à côte.
La première condition, c'est justement que l'autre a ses raisons de croire ou de croire à autre chose qu'à moi, mais je ne veux pas le convertir.
Exactement.
Et encore moins
Exactement.
De force.
Exactement. Il y a un colloque qui est organisé par l'Université Capitole et le Centre Toulousain d'Histoire du Droit et des Idées Politiques qui s'appelle « La loi de solidarité vers une fraternisation par la théologie et le droit » qui a lieu le 16, 17 et 18...
Qui a eu lieu, je crois.
Qui a eu lieu, pardon. Le 16, 17 et 18 septembre à Montauban, et je dois y parler de l'autre dans la conscience juive, justement.
Très bien. Pour nos auditeurs, peut-être auriez-vous un mot de la fin ?
Eh bien, je crois, parmi les choses que j'aime bien dire, je vais vous citer un extrait d'un texte d'Emmanuel Lévinas, qui est un philosophe absolument remarquable, tiré de son livre « Le temps et l'autre ». « Le regard de l'autre m'éveille à la conscience d'être humain responsable et me permet de me réapproprier ma propre identité en me rapprochant avec amour de celle de mon prochain dans une fraternité retrouvée ».
Merci, monsieur Attali.
Merci à vous.
Et à une prochaine occasion, sûrement.